Samedi 9 mai 1925. Il fait terriblement chaud. Il n'y a pas un souffle d'air dans la tente mide de place que Jean-Claude et moi avons partagée la nuit dernière, après avoir quitté l'infirmerie du camp de base, et bien que les battants de l'entrée soient grand ouverts, on a l'impression d'être enterré au Sahara dans un suaire à l'odeur de toile surchauffée. Quoique tous deux en sous-vêtements, J.C. et moi transpirons abondamment en regardant le diacre traverser à grands pas le champ de cailloux de la Moraine pour venir jusqu'à nous. Hier matin, quand le diacre, Reggie, Passang et les autres sont venus à notre secours à l'aube, ils nous ont redescendus au camp 2 où J.C. et moi avons continué à boire des tasses et des tasses d'eau froide. J'ai supposé qu'ils nous laisseraient là et transporteraient Hank Shiri et Lakpa Yishei au camp de base, où Passang les soignerait dans son infirmerie, mais le diacre a insisté pour que nous redescendions tous avec Norbu Shedi dont les joues étaient barbouillées d'huile de baleine et de graisse à essieux. Après nous être réhydratés et avoir bu de la soupe chaude, Jean-Claude et moi avons été capables de descendre l'auge avec Passang et 6 autres Sherpas, mais Hank Shiri a dû être transporté sur un brancard de fortune et Lakpa Yishei est descendu en boitant, soutenu par 2 camarades. Pour preuve de la sévérité de notre déshydratation, même après avoir bu autant d'eau, aucun de nous n'a dû s'arrêter pour uriner pendant la descente. L'air au camp de base, à seulement 5000 mètres d'altitude, nous a paru si riche et épais qu'on aurait pu nager dedans. Après les 2 jours et 2 nuits passés au camp 3 à 6500 mètres. De plus, le docteur Passang nous avait prescrit à tous les 6 quelques doses d'air anglais, grâce aux appareils à oxygène que des porteurs avaient montés. Après nous avoir permis à J.C. et moi de quitter l'infirmerie vendredi après-midi, il nous a donné une bouteille reliée à 2 masques, le débitmètre étant réglé pour ne donner qu'un litre d'oxygène par heure, et a insisté pour que nous l'utilisions pendant la nuit chaque fois que nous nous réveillerions en haletant ou en ayant froid. Avec l'aide de l'air anglais, J.C. et moi avons dormi pendant 13 heures. Le diacre s'accroupit près de l'endroit où J.C. et moi sommes allongés sur nos sacs de couchage, à moitié sortis de la tente pour profiter du chaud soleil. Il ne porte qu'une chemise en haut, même s'il a gardé ses épais knickers de laine et ses bandes moltières. Alors, comment vont mes 2 patients? Demande-t-il. J.C. et moi l'assurons que nous allons parfaitement bien. Bonne nuit de sommeil, excellent appétit au petit déjeuner, pas de signe de gelure ou de lassitude des montagnes. Nous ajoutons que nous sommes prêts à retraverser l'auge et le glacier pour retourner au camp 3 immédiatement.
Je me réjouis que vous vous sentiez mieux, dit le diacre, mais rien ne presse. Reposez-vous une journée supplémentaire.
Grimper haut et dormir bas. Voilà un adage sur lequel nous sommes d'accord, Lady Bromley-Montfort et moi. Surtout après les vents violents et le froid que vous avez dû endurer pendant 3 nuits.
Vous avez escaladé le mur de glace du col Nord sans nous?
Dit Jean-Claude d'un ton à la fois déçu et accusateur.
Absolument pas. Nous avons passé la journée d'hier et la matinée à consolider la voie jusqu'au camp 3 et à diriger les Sherpas qui ont emporté des chargements là-haut.
Lady Bromley-Montfort se trouve au camp 2 et nous allons continuer à convoyer le matériel toute la journée. Demain, elle et moi pensions rester au camp 3 pour nous y acclimater et si vous voulez nous rejoindre en fin d'après-midi tous les deux, nous pourrions essayer de gravir ce mur de glace lundi matin.
Il tapote le bras de Jean-Claude. C'est vous notre spécialiste de la glace, mon vieux.
Je vous ai promis de ne pas attaquer le col Nord avant que vous soyez prêt.
De toute façon, le vent est trop fort aujourd'hui au col Nord. Il tombera peut-être demain ou après-demain.
Le vent? Dis-je étonné.
Il n'y a pas un souffle d'air ici au camp de base.
Le diacre se penche d'un côté et tend le bras gauche comme s'il présentait quelqu'un.
Vous voyez comme elle fume? Dit-il.
J.C. et moi avons admiré le ciel bleu et la neige d'un blanc aveuglant sur la face nord de l'Everest. Mais remarquons seulement maintenant à quel point le vent doit donner là-haut. La longue traînée de poudreuse sur les sommets et l'arête nord disparaît de notre champ de vision à gauche.
Incroyable, dis-je.
Est-ce qu'il fait aussi chaud qu'ici dans l'auge?
6 degrés de plus, répond le diacre avec un sourire.
Mon thermomètre a affiché 37 degrés Celsius au milieu des pénitents entre les camps 1 et 2.
et il fait encore plus chaud sur le glacier. Les porteurs ont eu du temps pour se reposer et beaucoup d'eau à boire. Et ils sont tout de même arrivés épuisés au camp 3.
Combien pèsent les charges, Richard ?
Pas plus de 11 kilos entre les camps 2 et 3, la plupart autour de 9.
Il faut donc faire beaucoup d'allers-retours, commente JC.
Le diacre hoche la tête d'un air absent.
Et comment vont nos quatre camarades ce matin ?
Je me rends compte en posant la question que j'aurais dû le faire plus tôt. Baburita et Norbouchedi ont repris le travail, répond le diacre. Lakpa a les pieds noirs, mais d'après le docteur Passang, il ne perdra peut-être pas d'orteil. Angshiri, en revanche, eh bien, Passang dit sayonara à tous les orteils d'Ang et sans doute aussi à deux ou trois de ses doigts. Il en a trois particulièrement abîmés, tout noirs et ratatinés comme des momies égyptiennes. La nouvelle me cause un choc. Ang avait les pieds enflés et gelés au point d'être blanc quand nous l'avons aidé à enfiler ses bottes au camp 3 jeudi matin, et je sais que Passang a passé beaucoup de temps auprès des deux Sherpas lorsque nous étions tous à l'infirmerie hier. Mais je n'imaginais pas que ça se terminerait ainsi. Certains autres Sherpas sont déjà en train de fabriquer les nouvelles bottes de Saïb d'Ang, avec des formes en bois au bout pour remplacer les orteils, poursuit le diacre. Ang a bon moral. Passang procédera sans doute à l'amputation d'ici à mercredi. Ang affirme qu'il pourra recommencer à porter dès le week-end prochain. Un silence suit cette déclaration. Enfin, Jean-Claude dit
« Vous êtes sûr qu'on ne peut pas aller au camp 3 dès aujourd'hui, Richard ? Jake et moi sommes assez en forme pour grimper et nous pouvons transporter quelques charges d'ici. »
Le diacre secoue la tête. « Je ne veux même pas que vous transportiez quoi que ce soit demain. » Il va falloir une énergie colossale pour monter au col Nord. On aura de la neige jusqu'à la taille dans une grande partie de la pente, et vous avez vu le mur de glace bleu, là où se trouvait la cheminée bien-aimée de Mallory. Reggie et moi vous laisserons ouvrir la piste tous les deux lundi matin. Nous passerons derrière pour installer les cordes fixes et les échelles de spéléologue.
« N'oubliez pas ma bicyclette, » dit JC.
Le diacre hoche la tête. Vous pouvez l'emporter avec vos affaires personnelles demain. Rien de plus lourd. La bicyclette de Jean-Claude, la selle, les pédales et le guidon, que nous avons seulement aperçu lorsqu'on a refait les chargements apportés par les mulets et les yaks, a suscité quelques taquineries et une réelle curiosité pendant les 5 semaines de notre randonnée jusqu'à l'Everest. Je sais qu'il ne s'agit pas d'une vraie bicyclette, pas trace de roues ou de pneus, et plusieurs personnes ont juré avoir repéré d'étranges ailettes pliables en métal attachées à la structure. Mais seuls JC et le diacre ont l'air de savoir de quoi il s'agit.
J'espère seulement que ce beau temps va durer, dit Jean-Claude, sans cette terrible chaleur, bien sûr.
Je suis sûr qu'en plein soleil et à l'abri du vent, il fait plus de 37 degrés Celsius sur le col Nord aujourd'hui, renchérit le diacre.
Mardi et mercredi soir, au camp 3, il faisait moins 34 degrés Celsius, et nous étions tous sûrs que la mousson était arrivée, dis-je.
Pas encore, dit le diacre, pas encore. Il se frappe les cuisses et se relève. Je vais retourner voir Ang et Lakpa, discuter un moment avec le docteur Passang, puis monter avec quelques-uns de ses garçons. Nous allons transporter des charges au camp 3, au moins jusqu'au coucher du soleil.
Richard, dit JC. « Vous n'avez pas oublié de nous demander quelque chose ?»
Le diacre sourit. « Eh bien, messieurs, quelles leçons avons-nous tous tirées de votre petite aventure au camp 3 » Jean-Claude et moi éclatons de rire, mais avant que nous ayons pu parler, le diacre agite la main et s'éloigne vers l'infirmerie.